Décryptage, Adrien Delgrange.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus où que vous soyez sur la planète. Installez-vous, place à l'émission Décryptage.
RFI.
Narendra Modi est à Paris ce soir. Le Premier ministre indien achève sa tournée européenne dans la capitale française après être passé par l'Allemagne et le Danemark. Premier déplacement officiel à l'étranger du Premier ministre indien depuis le début de la guerre en Ukraine. Allié à la fois de la Russie et de l'Occident, New Delhi n'a jamais explicitement condamné l'agression de Moscou. Alors comment expliquer l'actuelle position de l'Inde sur la scène internationale ? Arpenter la ligne de crête sur laquelle marche New Delhi, c'est le décryptage du jour. Deux invités pour nous éclairer, Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur à Asia Centre. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Et puis au téléphone, Jean-Joseph Boileau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous connaissez aussi très bien la société indienne. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Alors, pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine lors de sa première étape de sa tournée européenne, Narendra Modi a insisté lundi dernier à Berlin sur l'importance du dialogue sans pour autant exprimer une position claire sur l'invasion russe de l'Ukraine. Première question, Jean-Luc Racine, comment expliquer que l'Inde maintient une position neutre dans ce conflit ?
Alors, il y a deux explications qui ne s'opposent pas l'une à l'autre. Il y a d'un côté la nouvelle mouture de la vieille politique de non-alignement que l'Inde a redéfinie ces dernières années comme étant celle de l'autonomie stratégique. À savoir, nous avons des partenariats, mais nous n'avons pas d'alliance, pure et dure. Et puis, pour le reste, sur la question ukrainienne, l'Inde a des liens trop étroits avec Moscou, particulièrement en matière de défense, puisque à peu près 75 à 80% de son matériel de défense est russe. Même si la Russie aujourd'hui compte moins qu'autrefois.
Et la France aussi. Hein,
la participe. France est maintenant numéro 2 derrière la Russie, assez loin derrière, mais devant les États-Unis, par exemple. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui sera sur la table ce soir entre Narendra Modi et Emmanuel Macron, bien sûr. Donc cette vieille relation avec la Russie, qui a souvent aidé l'Inde d'ailleurs par des veto au Conseil de sécurité quand la question du Cachemire a été mise sur la table, fait que d'un côté, l'Inde se prononce contre toute violation des frontières, etc., etc. Et en même temps, elle se refuse systématiquement a explicitement condamné la Russie. On l'a vu d'ailleurs aussi bien à Berlin qu'à Copenhague, où dans les déclarations conjointes faites avec ses hôtes européens, tant l'Allemagne que le Danemark condamnent explicitement l'agression russe en Ukraine, sans que l'Inde soit citée dans cette condamnation. Mais juste après, les deux pays, dans les deux cas, se retrouve pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations et au retour à la diplomatie.
Et vous, Jean-Joseph Boileau, comment qualifiez-vous cette neutralité de l'Inde à l'égard de la guerre en Ukraine ?
Écoutez, je crois que ce n'est pas très difficile à comprendre si on se parachute là en Inde. Là, aujourd'hui, la maison brûle. Au sens propre, comme figuré, vous avez sur vos antennes énormément détaillé cette crise terrible de la vague de chaleur, 45, 50 degrés. J'ai une belle famille qui est dans le centre de l'Inde et qui me dit que la production de blé va être en fait diminuée par deux. Et d'autre part, ce n'est pas une neutralité, on va dire, de façade, c'est une neutralité opportuniste. Il y a pour l'Inde un impératif qui est une stabilité de l'économie mondiale au maximum, car chaque fois qu'il y a une crise, elle souffre énormément. La tension inflationniste mondiale dont a parlé votre correspondant aux États-Unis est en train de se répercuter aujourd'hui en Inde aussi, bien sûr. Et donc, il y avait, si vous voulez, une sorte de débat caché avec les Européens sur la question de l'Ukraine et un débat ouvert parce que l'Inde souhaitait mettre sur la table, c'est-à-dire, si vous voulez, un équilibre face à la Chine, et finalement c'est ça fondamentalement le défi stratégique du siècle, eh bien il faut que vous fassiez un pas vers l'Inde, et un pas vers l'Inde, c'est-à-dire son développement économique.
Alors comment là se positionnent les Européens ce soir? Cherchent-ils à convaincre New Delhi de prendre parti dans ce conflit, ou alors c'est une cause perdue, Jean-Luc Racine?
Oh, pour l'essentiel, pour l'heure en tout cas, c'est une cause apparemment perdue. Il faut se rappeler d'ailleurs que quand les ministres des Affaires étrangères et de la Défense indiens étaient à New Delhi pour les réunions avec leurs homologues, étaient à Washington, pardon, il y a quelques jours pour une réunion avec leurs homologues, bah, on s'est rendu compte que au-delà du mal-être américain face à la position indienne telle que le président Joe Biden l'avait manifesté, le département d'État, comme le Pentagone, ont fait comprendre que bon, il faudrait pas quand même que New Delhi importe trop de pétrole russe, mais on pouvait comprendre sa position. Et les Européens sont finalement un peu sur la même ligne. Ils ont bien compris que New Delhi veut rester sur cette ligne de crête. Et d'autres enjeux sont sur la table, qui ont d'ailleurs été discutés aussi bien, encore une fois, en Allemagne qu'au Danemark, et qui le seront sans doute brièvement ce soir à Paris.
Comment interprétez-vous cette tournée européenne, Jean-Joseph Boileau? L'Inde veut conserver, ménager ses amis à travers la planète?
Oui, je crois qu'il y a, ce que disait Jean-Luc Racine, il y a une position de l'Inde qui est une sorte de, pour venir au non-aligné, hein, qui est quand même une date extrêmement importante au sommet de Bandung. L'Inde de Nehru est un pilier stratégique de cet non-alignement qui va compter jusqu'à 120 pays. Et donc, quand on est non-aligné, ça ne veut pas dire que l'on ne souhaite pas un monde multipolaire, au contraire, qui permettent d'échapper à cette pince des crabes chinois et américains de l'autre. Et dans ce contexte-là, l'Inde et l'Europe sont, on va dire naturellement, des partenaires à la fois géopolitiques, et là, la demande de Narendra Modi et de l'Inde en général, c'est de tirer l'Europe vers l'Indo-Pacifique en leur disant « Regardez, vous avez la guerre aujourd'hui en Europe, alors imaginez, nous, la situation dans laquelle nous sommes en Asie face à la Chine. » Donc, elle essaie de tirer. La France et la Grande-Bretagne ont été les premiers à répondre favorablement. L'Europe a beaucoup attendu, mais ça y est, je crois que le pli est pris avec la visite de von der Leyen à Delhi, qui a réaffirmé que l'Indo-Pacifique était désormais un axe stratégique de l'Europe. Et le deuxième aspect, comme je vous le disais, c'est la question économique. L'Europe est peut-être un ventre mou sur le plan géopolitique, mais sur le plan économique, c'est un partenaire stratégique parce qu'il y a une complémentarité entre l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Chacun apporte le meilleur, on va dire, dans cette coopération économique avec l'Inde.
Dans cette coopération économique, si vous pouvez développer, on parlait de l'armement, mais pas seulement. Hein.
Non, je crois qu'il y a quand même, il faut faire très attention. Bien sûr, la rencontre avec le président Macron va beaucoup porter sur le partenariat militaire, puisque la France est devenue, comme le disait Jean-Luc Racine, le deuxième fournisseur. Ses exportations d'armes ont été multipliées par 10 ces dernières années. Donc c'est un bond en avant considérable. Il y a là les deux porte-avions qui sont essentiels face à la Chine, dont un d'ailleurs qui est un peu amusant, qui est russe d'origine, mais qui a un problème d'avion sur le porte-neuf avec une concurrence entre le F-18 américain qui ne marche pas sur l'ascenseur et puis au contraire le Mirage Marine qui pourrait, enfin le Rafale Marine qui pourrait aller là-dessus. Mais en réalité, le militaire, c'est un des aspects, les deux autres étant un, le climat, le développement des énergies vertes, avec la France en particulier, c'est dans le nucléaire, avec l'Allemagne, dans l'éolien, avec les pays nordiques aussi, dans l'éolien et le solaire. Et le deuxième aspect économique, c'est la crise de l'emploi en Inde. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. l'arrivée massive des jeunes sur le marché du travail indien se traduit par un sous-emploi, un chômage considérable. Et bien sûr, pour l'Inde, l'Europe est un partenaire naturel. Un, parce qu'elle reçoit beaucoup d'Indiens. On ne cite pas assez ce chiffre, mais il y a 20 000 coopérants indiens en Allemagne en particulier. Et deuxièmement, parce que sur le front de l'emploi, les centres d'offshore, vous savez, l'informatique offshore, qui sont le premier fournisseur d'emplois modernes en Inde aujourd'hui, ont comme destination en particulier le marché américain, et l'Inde voudrait percer sur le marché européen dans la sous-traitance informatique.
Un partenaire économique, on l'entend, qu'il convient de ménager tant les intérêts sont colossaux pour l'Union européenne, Jean-Luc Racine.
La politique de Narendra Modi en matière économique a au moins le mérite de la clarté dans l'énoncé, pas forcément dans les résultats, à savoir, c'est le slogan « Venez fabriquer en Inde »,« Make in India », soit pour le marché indien, soit vous fabriquez ici et vous exportez. La question, c'est on fabrique quoi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fabrique des choses relativement simples ? Pour ça, il n'y a pas vraiment besoin d'investisseurs étrangers. Et si ce sont des choses plus complexes, à ce moment-là, il faut un transfert de technologie. Et les transferts de technologie, ça se négocie avec précaution. Et, on l'a vu d'ailleurs dans le domaine de la défense, mais ce n'est pas seulement dans ce domaine-là. Pour le reste, oui, la question économique est importante, et elle est surtout importante d'ailleurs pour New Delhi, parce que la situation économique n'est pas tout à fait resplendissante après différentes mesures prises par le gouvernement et le choc du Covid, même s'il est sous-estimé. Et donc, les investissements étrangers restent dans la stratégie de Narendra Modi une démarche essentielle pour relancer l'économie indienne.
L'Inde, puissance démographique, 1,5 milliard d'habitants, partenaire stratégique qu'il ne faut pas froisser, Jean-Joseph Boileau.
Oui, enfin, c'est la difficulté, effectivement, de la relation avec, on va dire, non pas l'Inde, là, cette fois-ci, mais avec Narendra Modi et son régime. J'ai vu qu'il y avait eu en Europe, à chaque fois, et en particulier en Allemagne, des manifestations contre la dérive autoritaire du régime, et en particulier vis-à-vis des musulmans. C'est la plus grande démocratie du monde. Comme disait Churchill, elle a beaucoup de défauts, mais la démocratie indienne, en ce moment, sous le régime Hindutva, a beaucoup, beaucoup de défauts. Et donc, il y a aussi, pour les Européens, une difficulté qui est clairement de mettre l'Inde dans le bloc, on va dire, démocratique, et en même temps, une certaine gêne, parce que ce régime est quand même un régime populiste, il faut le dire, autoritaire, répressif vis-à-vis d'un certain nombre de minorités et d'opposants, et c'est incontournable, et en même temps, comment dire que ce partenaire incontournable est quand même assez gênant dans certains domaines.
Avec l'Inde, l'UE éviterait-elle les sujets qui fâchent hein, vous le citiez, la situation au Cachemire, la persécution des minorités, notamment musulmanes, le tournant autoritaire du pays depuis l'accession au pouvoir de Narendra Modi, Jean-Luc Racine ?
Oui, en réalité, on joue toujours sur plusieurs tableaux. La Commission européenne ou le Conseil européen sont relativement discrets et laissent au Parlement européen et un certain nombre de députés sensibles aux questions des droits de l'homme de poser des questions, les questions gênantes. Bon, pour le reste, question gênante, on l'a encore vu en Allemagne, le chancelier Scholz et Modi sont face à la presse, mais la délégation indienne précise bien que les journalistes ne poseront pas de questions. Modi n'a jamais donné de conférence de presse depuis qu'il est au pouvoir en 2014. Donc, il y a des accommodements. Avec les États-Unis, c'est un peu la même politique, si ce n'est qu'aux États-Unis, il y a des instances paragouvernementales, entre autres sur la liberté religieuse internationale, qui ont sorti il y a quelques jours leur rapport annuel, qui reste toujours très critique sur l'Inde de Narendra Modi. Pour l'essentiel, la réelle politique prévaut sur ces questions, me semble-t-il.
Alors, l'autre défi majeur, la cause climatique. D'ailleurs, à l'heure actuelle, hein, on le disait, les Indiens suffoquent. Hein, les températures dépassent allègrement les 45 degrés. Au Danemark, Narendra Modi est venu parler, échanger également sur les énergies vertes, Jean-Joseph Boileau, avec une coopération européenne sur les énergies éoliennes et solaires.
Oui, c'est un dossier, stratégique cette fois-ci, non pas au sens de la guerre en Ukraine ou de l'armement face à la Chine. C'est stratégique parce que aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure le chiffre, on estime à plus de 300 millions le nombre d'Indiens qui risquent d'être confrontés à des situations absolument terribles avec le changement climatique. On a en ce moment, par exemple, dans les hôpitaux, un afflux de personnes qui ont des difficultés à respirer à cause de cette chaleur suffocante. En plus, il y a des pannes d'électricité, de sorte que l'air conditionné qui est utilisé pour essayer de baisser un peu les températures dans pas seulement les voitures, mais dans les maisons, ne fonctionne pas. Et donc, il y a au-dessus, je dirais, de la pile, d'une certaine façon, cet enjeu de moyen long terme. L'Inde a fait des efforts, bien sûr. Elle a pris des engagements très louables lors du sommet de Paris en 2015. Mais ça va lentement. La première source d'énergie reste par exemple le charbon, au point que la panne aujourd'hui de l'air conditionné vient pas des éoliennes ou du solaire, mais de ce que tout simplement les réserves de charbon dans les centrales thermiques sont au minimum, à quelques jours seulement. Donc il y a avec l'Europe, là je pense, une porte grande ouverte pour travailler ensemble, oui, sur l'éolien. L'Inde a fait de gros progrès dans l'éolien. Sur le solaire, vous savez que la Chine est très dominante, mais l'Inde s'y est mise. Pour l'instant, ça traîne quand même, il faut le dire. Et enfin, sur le nucléaire, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, le fait est que l'Inde joue cette carte et que les négociations avec la France en particulier traînent en longueur, hélas.
Quand Narendra Modi vient parler de cause climatique en Europe, ce n'est pas pour éviter le sujet de la guerre en Ukraine, Jean-Luc Racine.
Non, c'est vraiment une question prioritaire. Mais alors, comme toujours avec Narendra Modi, il faut faire la part des choses entre le discours, voire la propagande, et la réalité des faits. Mais tout son voyage européen est marqué par cette question. L'Allemagne s'est engagée pour une dizaine de milliards d'euros sur un certain nombre d'années, sur des programmes relevant du changement climatique ou de l'énergie verte, pour l'appeler ainsi. Et il faut se rappeler, s'agissant de la France, que Narendra Modi et Emmanuel Macron ont été les chefs d'État et de gouvernement qui ont lancé près de Bénarès l'Alliance solaire universelle il y a quelques années. Donc cette question, elle est cruciale. Pour autant, un certain nombre de critiques en Inde ou d'observateurs étrangers disent que les objectifs fixés par New Delhi lors de la COP26 à Glasgow restent relativement modestes. Mais il est vrai que la tâche est particulièrement difficile.
En guise de conclusion, Jean-Joseph Boileau, alors que Emmanuel Macron reçoit en ce moment à l'Élysée Narendra Modi, dernier jour de cette tournée européenne, qu'attendre de cette rencontre entre l'Inde et la France ?
Écoutez, je crois qu'il faut la prendre très au sérieux. On a souvent tendance quand même à mettre un peu l'Inde de côté, non pas parce que c'est un petit pays, il y a 1,5 milliard d'habitants, comme vous le dites, mais en termes économiques, c'est une économie qui est très auto-centrée. Alors, même qu'elle est le troisième produit intérieur brut du monde en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire au prix intérieur, mais en termes de chiffre d'affaires, pour l'Europe, c'est un nain économique. Pour la France, c'est pareil, ça reste un nain économique. Donc, il faut, je pense, essayer de basculer vers cette compréhension que l'Inde fait partie on va dire, pour l'essentiel des grands enjeux mondiaux à venir, à la fois géostratégiques, la guerre notamment là, en Ukraine, mais aussi sur les enjeux de transition écologique, est un partenaire de premier plan et il faut retrouver le chemin de partenariat beaucoup plus dense que ce qui est fait aujourd'hui.
Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos deux invités, Jean-Luc Racine, Jean-Joseph Boileau, d'avoir participé à cette émission réalisée ce soir par Hélène Avril. Coordination Sigrid Azeroual, documentation Charles Barré. À suivre sur Radio France Internationale, le débat du jour.